Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des étudiantes de l'Université Nîmes en deuxième année du Master Humanité Industrie Créative. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Karen Ponte, une autrice française qui a déjà publié plusieurs romans à succès et qui se spécialise dans le genre du feel-good, un genre littéraire qui a pour ambition de procurer un sentiment de bonheur à ses lecteurs et lectrices, de bien-être, donc feel-good. Karen a accepté de nous accorder une interview pour nous parler de son œuvre, de son travail d'autrice, mais aussi un peu d'elle-même et de ce que le feel-good représente pour elle. Donc voilà, bonjour Karen, comment
bonjour.
Tu vas ?
Je vais très bien.
Ça nous fait plaisir de l'entendre. Sachez que cette interview est un peu particulière parce qu'il n'y aura pas seulement des questions, mais aussi des audios basés sur ton livre sur scène, ainsi qu'une boîte noire dont ma camarade va expliquer le principe. Il y aura aussi un petit moment pour les questions du public qui arrivera à la fin.
Alors, pour la première question, tu vas trouver une boîte noire dans laquelle on a mis des petits objets. Donc, on a mené une petite enquête et tu vas voir, ils vont peut-être t'évoquer des choses. Donc, ce sera soit des choses que tu aimes, soit des
choses que je déteste. Oh, non,
on a évité. Mais voilà.
Genre une araignée ou un truc.
Je te laisse prendre la boîte.
Et on te laisse prendre le premier objet.
Mais est-ce que je regarde ? Non ?
Oui, tu dois regarder.
Le premier objet.
C'est ça.
Alors, une Funko Pop de Toy Story. Alors, c'est censé m'évoquer. Alors, j'en ai plein des Funko Pop. Mais est-ce que c'est Toy Story qui doit m'évoquer ou juste la Pop ?
La Pop.
Oui. Oui, j'en ai plein dans mon bureau. J'ai presque toutes celles de Friends. Que je collectionne, voilà.
D'accord. Et c'est une passion, c'est la collection.
Alors, ça ne sert totalement à rien, ça prend complètement la poussière, mais j'adore. J'adore ces petits trucs totalement ridicules, parce que ça décore, et pour le coup, effectivement, alors j'ai Friends, mais j'ai aussi les personnages de Vice Versa, le dessin animé que j'adore. Et voilà, donc du coup, ouais, j'adore ces petits trucs, je trouve ça trop sympa.
Ok.
J'ai plein de Jelly Cat aussi. Il faut vous regarder mon bureau. C'est un enfer de petits trucs qui ne servent à rien.
Bon, du coup, voilà, tu peux passer au deuxième objet, du coup.
Alors, un appareil photo. Alors ça, je ne vois pas ce que c'est censé me dire.
Bah,
un appareil photo, je réfléchis. Un téléphone, j'aurais compris.
Nous avons vu que tu aimes les photos et surtout faire des collages avec les photos.
Ah oui, donc c'est mon activité du moment. D'accord. Oui, alors en effet, j'ai découvert en début d'année le art journal. Donc c'est faire de l'art dans des carnets en fait. Et ça me procure un bien-être de malade. Parce que il n'y a pas besoin de compétences, il y a juste besoin d'un pinceau, d'un pot de peinture, et on étale tout ça, et on fait exactement ce qu'on veut. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur et reposant. Et donc, effectivement, et je fais aussi beaucoup de collage, donc je découpe des choses. Alors pareil, ne serait-ce que découper et détourer une image, essayez chez vous. Pendant ce temps-là, on réfléchit à rien du tout, on découpe juste son truc. Et puis après, on essaye d'agencer, et c'est vraiment, voilà, c'est ma recherche créative du moment. Qui me permet de recharger mes batteries. Et puis pendant ce temps-là, en fait, je pense à rien d'autre et ça me donne envie d'écrire. C'est vraiment, je vois un lien très fort entre ça et évidemment l'écriture à côté.
En fait, tu restes toujours dans la création, même quand tu te détends. En fait.
Je pense qu'il y a toujours eu ça en moi, le collage, le journal intime, les bidouilles comme ça. J'ai toujours une boîte avec des souvenirs où je garde des tas de tickets. Et maintenant, effectivement, je les colle dans des journaux. Et c'est, ouais, je trouve ça vraiment très chouette. De toute façon, l'art-thérapie, hein, je pense que c'est quand même bien connu pour aider les gens à juste arrêter de penser. Arrêter de penser, quoi. Et ce que j'aime vraiment, et je le dis, je l'ai dit beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il y a besoin de zéro compétence. Il y a beaucoup d'art pour lequel il faut savoir, avant de jouer un morceau de piano, il faut avoir fait des gammes, etc. Et la peinture ou le collage, il n'y a besoin de rien savoir faire, quoi. Et donc, on a un côté satisfaisant tout de suite, parce qu'on peut produire quelque chose tout de suite, alors même que moi, je suis niveau bonhomme bâton en dessin. Voilà, je ne sais absolument pas dessiner. Et je trouve que c'est, pour l'ego, en fait, c'est hyper satisfaisant. Et ça permet de retrouver son âme d'enfant, parce que quand on est gamin, on dessine trois branches et on ne se pose pas la question de si c'est beau ou si c'est laid, on a juste fait un dessin. Et en grandissant, et bah d'un coup, parce qu'on va vous dire, ah ben, ça ressemble à rien, ou t'as dépassé, etc. Alors que les enfants, ils ne se posent pas ce genre de questions. Ils font trois traits sur une feuille, ils disent, tiens, je t'ai fait un dessin. Et en fait, on va retrouver ça. Je trouve qu'on est tous dans cette espèce de perfection. Il faut que ça produise, ça soit beau. En fait, ce n'est pas le but, hein. C'est juste de passer un bon moment, quoi.
C'est vrai. Et donc, on te fait prendre le troisième et dernier objet pour...
Troisième. Alors, j'ai une...
Ce petit moment.
J'ai une feuille. Alors, donc ça, je vois tout de suite. Donc, c'est une photo de boîte de céréales. Alors, pourquoi ? Parce que dans le roman, Ginger et Lola se rencontrent dans un supermarché et elles se trompent de caddie, en fait. L'une prend le caddie de l'autre. Et pourquoi elles se trompent ? Parce que toutes les deux, elles achètent des Weetabix, ce truc que personne ne mange, globalement, hein, tellement c'est bourratif. Et donc, du coup, elles ne se méfient pas, en fait, et c'est comme ça qu'elles se rencontrent.
Très bien. Maintenant, on va donc passer à au premier audio. Il y en a trois en total et on va les faire passer à des moments différents de l'émission. Votre objectif est de deviner de quelle scène il s'agit, en sachant qu'ils sont tous pris du livre sur scène.
J'ai la pression du coup, si je ne reconnais pas, vas-y.
En sachant que oui, le niveau est très très dur, il est très très haut. Exprès, parce qu'on a voulu un peu vous challenger, vu que vous êtes l'autrice.
Après, on va croire que c'est pas moi qui l'ai écrit, du coup, si je ne connais pas.
Non, non, quand même. Mais donc, voilà, on peut écouter le premier audio.
Qui se ferme.
Est-ce que...
Avec du bruit. Là, poser une colle.
Est-ce que...
Alors, je pourrais avoir une idée d'un passage, éventuellement. C'est pas dans l'ordre du roman, ça peut être à n'importe quel endroit.
Ça peut être à n'importe quel endroit.
Il y a un moment où quelqu'un entre dans une chambre... Alors que Ginger est en train de dormir et c'est pas prévu. Est-ce que c'est ce passage-là ou pas ?
Non.
Non.
Malheureusement, non. Est-ce que tu veux qu'on te dise ?
Un indice. Je veux un indice. La première lettre.
H.
H. Oh
bah. C'est pour le lieu.
C'est pour le lieu. Non mais alors là.
À un moment, on a entendu des sortes de battements et puis il y avait des choses qui roulaient. Ça évoque rien.
Des battements, des choses qui roulent.
Dans une course un peu folle pour s'échapper d'un lieu.
Tu peux donner ta langue au chat.
Une course... Non, 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 je refuse de donner ma langue au chat, je suis compétitrice. Une course un peu folle pour s'échapper d'un lieu. Vous m'inquiétez là.
Un lieu où elle a vraiment pas envie d'être.
Sans rire. Il y en a qui
Parce
savent à part moi.
Elle veut être autre part.
Alors, qui va être autre part ? Ginger ou Lola ?
Ginger.
Ça a à faire avec en fait, ce qui lui arrive au début du roman.
Oui.
Et du coup...
Ça, d'accord.
Et du coup, elle se retrouve dans un lieu où elle ne veut pas rester. Donc, elle cherche à s'échapper.
Alors là, franchement, au début, elle est à l'hôpital. Elle s'en va.
Et du coup, vous y êtes ?
De l'hôpital.
Vous avez dit là... C'était l'hôpital. Vous
ah,
avez
ça, c'était
dit,
l'hôpital. Ah ouais, d'accord. Ah oui, H pour hôpital, évidemment, d'accord. Alors, je n'avais pas du tout reconnu. Donc, en effet, par contre, je peux raconter, du coup, effectivement, le début du roman. Elle est chez son oncologue et il lui apprend, en fait, qu'elle fait une récidive de cancer du sein, sachant que cette récidive est très proche de le premier épisode et que c'est jamais très bon, une récidive très proche. Et elle lui demande si c'est compliqué, si elle a des chances. Et en fait, il ne veut pas lui répondre. Et donc, elle comprend que ça va être compliqué. Et à ce moment-là, évidemment, qu'elle a pas du tout envie et de revivre ça et de repasser par toutes ces épreuves. Et donc, c'est le prétexte du roman, c'est le début du roman, hein, où elle va se dire que si jamais il doit lui rester pas beaucoup de temps, elle en fera autre chose que de le passer à l'hôpital. Et donc, c'est ce qui va la conduire à New York après.
Très bien.
On avait l'impression que c'était d'une cave, on est d'accord. Ce bruit.
C'est pour ça qu'on a dit que c'était très dur. C'est le niveau hard. Exprès parce que vous êtes l'autrice. Parce que tu es l'autrice, pardon.
Donc maintenant, une petite question. Comme on l'a expliqué, tu te revendiques avant tout comme une autrice feel good. Pourtant, quand on s'intéresse à tes œuvres, on voit que tu traites de sujets extrêmement difficiles, donc comme la maladie ou l'anxiété et donc même la mort. Et justement, dans ton livre sur scène, il y a une des protagonistes, donc comme tu as expliqué, qui a un cancer qui récidive. Et donc, on se demandait, pour toi, c'est quoi le feel good, si c'est pas toujours positif?
Alors c'est vrai que sur le papier, quand on raconte sur scène, on se dit que c'est pas du tout un roman feel good. Et en réalité, pour moi, c'en est un en fait, parce que la définition qu'on peut en avoir ou que les médias en ont n'est pas la bonne. Le roman feel good, c'est pas les thèmes qui sont feel good, c'est pas les histoires, c'est la manière avec laquelle elles sont traitées. C'est ça qui en fait amène du bien. Les romans feel good, c'est des romans qui parlent de la vie. Et la vie, elle est pas toujours drôle en fait. Et dans la vie. On a des maladies, on se sépare, on perd des proches. Ça, c'est la vraie vie. Et moi, j'aime parler de la vraie vie. Par contre, j'ai un prisme narratif choisi et assumé, qui est celui de la lumière et de l'optimisme. Et c'est ça qui est feel good. C'est pas du tout les thématiques, c'est pas du tout l'histoire. C'est la manière de la traiter. Et dans ce roman, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer que si Ginger ne choisit pas cette récidive, parce que, hélas, on choisit évidemment pas quand la maladie vous tombe dessus, en revanche, elle peut choisir de ce qu'elle va faire du temps qui lui reste. Et ça, pour moi, c'est fondamental de me dire qu'il y a toujours cette main-là, qu'on a toujours cette possibilité-là, même si c'est triste, même si le temps est compté, et d'en faire quelque chose de chouette, quoi. Et c'est ça qui est feel good, en fait. C'est ça qui amène du bon. Et d'ailleurs, j'ai eu une lectrice au tout début de la sortie du roman qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle venait de sortir d'un cancer du sein et qu'elle était, elle, en rémission. Elle me dit, si jamais je récidive, je ferai lire ce livre à toute ma famille pour qu'ils comprennent que moi aussi, je ferai ce choix-là. Et je trouve ça... En fait, c'est ça qui est feel good. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on amène cet espoir-là. Et peu importe, effectivement, comment ça finit, tous les thèmes abordés, il n'empêche, quand on referme ce roman, même si on a pleuré, eh ben, on a ce côté un peu positif, quoi, de se dire que, ouais, en fait, c'est pas forcément tout moche, quoi.
Merci. Du coup, maintenant, on va passer au deuxième audio.
J'ai peur, du coup.
Non, tu dois pas en avoir.
J'ai peur du deuxième audio.
Non.
Marche. Encore une porte.
Un endroit.
Bon, elle marche. Donc, il marche. Il y a plein de moments où elle marche. Alors, Ligne feuille. Une chanson, donc. Okay. Est-ce que c'est quand elle l'a fait chanter au restaurant ou pas?
C'est exactement presque.
Presque.
En tout cas, il y a quelqu'un qui chante.
Oui. Est-ce que c'est quand elle entend la chanteuse au restaurant?
Non.
C'est dans un autre lieu.
C'est dans un autre lieu.
Mais elle chante.
Elle chante.
Celle qui chante.
Est-ce que c'est quand elle revoit la vidéo avec sa maman? Parce qu'il y a plein de moments où elle chante, hein, Ginger.
Donc, c'est un lieu un peu plus public.
Un lieu plus public. C'est Ginger qui chante, hein?
Oui.
Parce qu'elle chante à Broadway, elle chante chez Hélène Stardust, Dinner.
En fait, vous avez déjà dit la réponse.
Elle chante à Broadway, d'accord.
C'est ça. Ouais. Tu as déjà dit la réponse, pardon.
Oui, c'est un roman qui se passe dans l'univers des comédies musicales. Donc, du coup,
donc voilà, c'était la scène au théâtre à Broadway.
Ah oui, ok. Oui. Vous avez fait un bond dans le temps, là. D'accord.
C'est ça, c'est pour ça que... les audios ne sont pas toujours... voilà. Dans ce cas, oui, mais ils ne se suivent pas toujours. Donc, en fait, tu peux prendre le prochain objet de la boîte noire.
Ça, je vois aussi. Hop. C'est donc le coffret DVD de Glee, qui est une série musicale, qui est présente dans le roman, parce qu'en fait, lors d'un dîner, en fait, Ginger décide d'aller dîner, d'emmener sa copine Lola. Elle se fait d'ailleurs super belle ce soir-là. Ginger, elle avait un restaurant, elle était propriétaire d'un restaurant qu'elle a monté de toutes pièces et qu'elle a dû vendre en fait quand elle a été malade la première fois parce qu'elle n'avait pas l'énergie pour gérer ce restaurant. Et donc là, elle y retourne pour l'une des premières fois et c'est compliqué parce que ce restaurant-là, c'est toute sa vie. Et l'équipe a décidé de poursuivre l'un des projets qu'elle avait, à savoir d'en faire un piano-bar. Et donc le soir où elle y est, il y a donc une chanteuse qui est là et qui chante une chanson de Glee. Qui est dans Glee et qui elle l'a fait penser en fait à sa maman parce que c'était l'une des chansons préférées de sa maman et c'est ce qui va lui faire le déclic en fait, c'est-à-dire qu'elle va se rappeler que quand elle était ado, elle avait un rêve qu'elle partageait avec cette maman partie trop tôt et c'est ça qui va ensuite la conduire évidemment à vouloir partir à New York.
Du coup on comprend que toi tu aimes Glee.
Ah, mais moi j'aime tous les films musicaux, donc de toute façon j'aime beaucoup les chanteurs de Glee. J'aime beaucoup en plus le parcours des comédiens qui ont été quand même vachement tristes. Cette série, elle a été marquée par vachement de deuil, etc. Et oui, je suis très fan des films musicaux, des comédies musicales, parce qu'en fait, j'adore les voix, j'adore les effets de groupe. Et c'est ce qu'on a beaucoup dans les films musicaux, en fait, et ça me colle toujours des frissons. Et donc, cette série, elle est assez extraordinaire pour ça. Et en plus, les personnages sont vraiment chouettes.
Très bien. Sur cette note, on va faire une petite pause et on va se revoir dans une dizaine de minutes. Du coup, voilà, on va reprendre maintenant.
Alors, on va attaquer avec une autre question. Donc, si tu devais adapter un de tes romans en film, ce serait lequel et pourquoi celui-ci en particulier ?
Si je devais adapter un de mes romans en livre, alors je pense... Alors, c'est...
En film.
En film, oui, pardon, oui, c'est vrai. Je dirais que ceux qui sont, à mon avis, les plus facilement adaptables sont les comédies de Noël. Donc, j'aimerais bien avoir une comédie de Noël qui s'adapte. Ça se travaille, c'est en cours, c'est pas sûr que ça aille au bout. Mais ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, parce qu'en plus, je pense qu'il y a... c'est pas compliqué et il y a du monde qui aime les comédies de Noël. Donc, j'aimerais bien qu'une de mes comédies aille au bout.
On croise les doigts, du coup.
Et moi aussi, il faut croiser tout ce que vous pouvez.
Et donc, on parle de films, on parle de musique. Mais est-ce que vous avez déjà envisagé d'écrire une comédie musicale ?
Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu as déjà... c'est une bonne question. J'ai jamais envisagé. En revanche, j'aurais adoré écrire des chansons. C'est un truc que je... Régulièrement, moi, je n'écoute que de la variété française. Je suis une grande fan de variété française. Il y a des auteurs que j'aime infiniment, comme Jean-Jacques Goldman notamment, parce qu'il a une patte, même quand il écrit pour d'autres. Souvent, je me dis, tiens, on dirait du Jean-Jacques Goldman. Et quand j'entends dire un tel, écrit par Jean-Jacques Goldman, je dis, voilà. Et j'aurais adoré écrire des chansons, mais je pense que c'est vraiment difficile. Mais ouais, pourquoi pas, ça, une comédie musicale, il faut que j'y réfléchisse, quelle bonne idée.
Ça a donné une idée.
Mais oui.
Voilà, dans le futur.
Exactement.
Prochainement.
Alors maintenant, on va te laisser piocher un nouvel objet dans la boîte noire et nous dire ce qui t'évoque.
Alors, nous avons un carnet. Est-ce que c'est le carnet ou est-ce que c'est le message qui est dessus ?
C'est le carnet.
C'est le carnet. Alors, je pense que je dois en avoir 400, des carnets, parce qu'on n'a jamais assez de carnets, il faut le savoir, c'est très important. Le problème après, c'est qu'ils sont trop beaux et qu'on n'ose pas écrire dedans. C'est le problème de ces carnets. Mais oui, je collectionne ça, l'électrice m'en offre. Et ceci dit, maintenant, je les utilise puisque je fais du collage, de la peinture, de tout ça dans des carnets. Et c'est pareil, c'est moins impressionnant qu'une toile, en fait. Je pense que je serais beaucoup moins à l'aise avec une toile. On a l'impression qu'il faut être peintre, en fait, sur une toile. Dans un carnet, on s'en fout, on referme. Donc oui, j'aime beaucoup ça, les carnets, les stylos, la papeterie, les stickers, voilà. Tous ces trucs-là.
D'accord. Alors, prochaine question. Tu as été publiée pour la première fois à l'âge de 36 ans. Donc, on se demandait si tu avais un conseil à donner aux potentiels jeunes auteurs et autrices qui sont peut-être sur le point de jeter l'éponge ou qui pensent que c'est déjà trop tard pour se lancer dans l'écriture.
Jamais trop tard, ça c'est une évidence. Je supporte, j'ai beaucoup de tristesse pour les personnes que j'entends dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait autre chose » et tout ça. Et je trouve ça infiniment triste, en fait, de se dire qu'on a laissé passer des fois des tas d'années alors qu'on avait des fois des tout petits rêves en plus. Hein, et qu'on dit « Mais si j'avais su, en fait, non, la seule chose qui compte, c'est ici et maintenant. » Et donc, il faut absolument pas perdre de temps et tenter la chance. Et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Mais donc, évidemment, il n'est jamais trop tard. Et j'ai envie de dire que si on a vraiment l'envie d'être publié, eh ben on ouvrira les portes, les fenêtres à coups de pied s'il le faut et on finira par y arriver. Je crois que parce qu'il y a plusieurs méthodes en plus de publication. Il n'y a pas que l'édition traditionnelle, il y a l'auto-édition. Et si l'envie est là, en fait, il ne faut pas lâcher. Quoi. C'est hyper important.
Il faut se lancer.
Ouais, faut se lancer. Moi, j'ai réalisé ce rêve 20 ans après, même plus que ça au final, celui de le faire quand j'étais gamine. Et pour vous raconter une anecdote, j'aime bien voir des signes un peu dans la vie. Et j'ai signé ma rupture conventionnelle de mon CDI le 23 juillet 2022, après 10 mois de négociations très compliquées avec ma boîte. Et je suis née le 24 juillet. Et en fait, je me suis dit, en fait, la vie, t'as fait un cadeau. Parce que mon premier jour de romancière à temps plein, c'était le jour de mon anniversaire. Et au final, je me suis dit, c'est 10 mois de galère sans nom et tout. Et j'aurais pas voulu que ça soit autrement parce que maintenant, j'ai un beau symbole qui était cette date-là et qui, du coup, est tombé totalement par hasard. Hein. Et moi, j'ai choisi d'y mettre ce signe-là et de me dire, le jour de ton anniversaire, à donc 42 ans, tu réalises 30 ans plus tard le rêve de la môme de 12 ans que tu étais. Et donc voilà, c'est
mon destin,
mon petit cadeau à moi.
C'est incroyable. Et du coup, toujours en parlant d'écriture, est-ce que tu as une méthode de création de personnages ? Est-ce que tu mets un peu de toi-même dans tous les personnages que tu crées ou tu suis un autre processus ?
Alors, je mets rarement de moi dans les personnages, sauf mon dernier roman qui est sorti en avril où Lily, c'est vraiment moi. La Juliette de mon premier roman me ressemble aussi pas mal parce que dans les premiers romans, on va rarement chercher très loin. Après, les autres, non. En revanche, c'est mon univers. C'est vraiment dans mes romans, même si les personnages Ginger me ressemblent pas du tout. J'ai 2-3 traits en commun avec Lola parce que j'ai longtemps été une grande anxieuse comme elle. Pas à ce point-là, mais pas mal quand même. En revanche, tout l'univers qu'il y a dans mes romans, les gens qui me connaissent, quand ils me lisent, en fait, ils reconnaissent l'univers. C'est mes playlists, c'est les trucs que j'aime faire. Là, pour le coup, dans Sur scène, j'ai mis tellement de choses que j'aime. J'ai mis New York, j'ai mis les comédies musicales, j'ai mis l'amitié, j'ai mis vraiment des choses là qui me tiennent à cœur. Donc ce roman-là, il me ressemble beaucoup par l'univers, mais moins par les personnages. Pour le coup, Ginger, c'est vraiment pas du tout moi.
L'anxiété...
Alors l'anxiété de Lola, si. Mais l'anxiété de Lola, si. Je trouve qu'on parle peu d'anxiété. Or, ça bouffe la vie de plein de gens quand même. Et dans le roman, j'ai mis. Elle a une stratégie, Lola, elle, qui vient d'un film en fait, où il découpe sa journée en unités de temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Hugh Grant. Je ne sais plus comment il s'appelle le film.
Je ne saurais pas aider.
Je l'ai dit dans le roman, mais je ne me souviens plus. Et donc, Lola, elle transpose. Et en fait, elle découpe en unités d'angoisse. Et donc, elle a repéré des tas de choses qu'elle fait dans la vie et combien ça lui coûte d'unités d'angoisse. Et elle sait que par jour, elle peut supporter 15 unités d'angoisse maximum. Donc, ça lui permet de savoir si elle passe un coup de fil, si elle fait les courses, si elle va voir sa mère, etc. Et quand il y a trop d'unités d'angoisse, elle ne fait pas. Et j'ai des lectrices qui m'ont dit « Ah, mais je vais utiliser ça, c'est vachement bien !» pour, en fait, se connaître et savoir où sont ses limites. Quoi. Et donc, Lola, elle fonctionne comme ça. Et donc, partir à New York pour elle, c'est genre 14 millions d'unités d'angoisse. Quoi.
On comprend.
Et maintenant, on arrive au... troisième et dernier audio.
Alors, une porte.
Peut-être 1/3.
Des gens qui marchent. Train. Fête foraine.
Non.
J'essaie de penser au roman, du coup. de la musique. De la musique. Il y a encore autre chose à propos, non?
Oui, mais quand même, il y a de la musique, du coup, bon, c'est vrai que c'est un thème, mais...
Des gens dans un théâtre?
Non,
peut-être pas dans un théâtre.
Pas dans un théâtre. Un resto?
Oui,
on chauffe.
Lequel?
Alors, dans le roman, il y en a plusieurs. C'est soit chez Ginger, soit chez Ellen Stardust, à New York. Donc, lequel c'est ça?
Et du coup, est-ce que tu veux quoi?
L'un ou l'autre. Hein.
Et du coup, en fait, dans ce cas, c'est chez Ginger.
D'accord, ok. Donc ça rejoint ce qu'on disait au début, hein, quand elle chante, quand elle entend la chanteuse au piano bar chanter une chanson voilà, qui lui rappelle son adolescence. Quand elle est à New York, Lola lui fait la surprise, en fait, et elle remplace une serveuse et elle chante, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'elle réussisse à chanter sur scène. Et donc, elle a ce soir-là son moment pour elle où elle remplace une serveuse, qui est un vrai restaurant qui existe. Hein. Si vous allez à New York, il faut absolument aller chez Ellen Stardust. Voilà, du coup.
En parlant de New York, du coup, tu peux prendre le tout dernier objet. Même si en vrai, cette fois, il se divise en deux.
Une pomme.
Oui, et il y a encore quelque chose.
Il y a encore quelque chose. Dans la boîte ou pas dans la pomme?
Pas dans la pomme.
Dans la boîte.
Porte-clés New York City. Donc c'est New York, évidemment.
C'est ça.
Alors,
du coup, tu as compris aussi pourquoi la pomme?
Oui, bah évidemment. Évidemment.
Une grosse pomme.
La Big Apple. C'est New York, c'est la ville que je préfère au monde, vraiment. J'ai eu la chance d'y aller deux fois. Et je sais que j'y retournerai. Il y a un truc qui est dans cette ville que je trouve nulle part ailleurs. Une espèce de d'énergie vitale qui vient de partout. Franchement, c'est une ville qui est assez extraordinaire, avec rien qui ne ressemble à rien. Ça veut dire qu'on tourne un coin de rue et ça ne ressemble pas du tout au coin de rue d'avant, parce qu'en fait, ils ont zéro règle d'urbanisme, hein, par rapport à nous. Donc, vous avez des immeubles en verre de je ne sais pas combien de mètres de haut, et à côté de ça, il y a des vieux machins des années 1830. Ça ressemble à rien et en même temps, c'est magique. Enfin, vraiment, il y a New York, j'adore infiniment cette ville. C'est aussi, ça paraît très urbain, mais en fait, c'est très vert, c'est très tourné vers l'extérieur. Il y a des bancs, des tables, des sièges partout sur lesquels les Américains s'assoient pour passer un moment. Moi, je me dis, en France, vous laissez une table, des chaises, le lendemain, vous revenez, il n'y en a plus. Et là-bas, franchement, c'est assez... il faut aller à New York, ce n'est pas encore l'occasion d'y aller.
Et du coup, ça rejoint un peu notre prochaine question qui était, dans ton roman, en tout cas, on sent que tu as vraiment une vision idéalisée de New York et on se demandait si c'était pour le genre du feel good ou si t'avais vraiment, tu voyais vraiment New York avec des paillettes dans les yeux.
C'est comme ça que je le vois. Alors évidemment qu'il y a aussi des tas de trucs pas cool hein, à New York. Quand j'y étais là en novembre, il y a quelqu'un qui s'est fait assassiner dans un McDo. Bon, ça, voilà, c'est aussi ça. Et pourtant, je peux vous dire, ça paraît très paradoxal, mais quand j'y suis, je m'y sens en sécurité dans le métro, alors que j'ai la trouille à Paris, quoi. Je peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, c'est sans doute, évidemment, plein de paillettes, hein, c'est sûr. Je mets, voilà, ce New York que j'aime, moi. Mais vraiment, franchement, je pense que les gens qui y vont, personne ressort indemne de cette expérience de Manhattan là, qui est quand même vraiment particulière, quoi.
Merci. On arrive donc à la toute dernière question, qui est donc prochain livre. Est-ce que tu as déjà commencé à l'écrire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits spoilers?
Alors, j'ai commencé à l'écrire, effectivement, le prochain roman qui paraîtra en avril 2026. C'est un roman sur l'amitié au long cours à l'épreuve du temps. Et le point de départ de ce roman, c'est aussi une chanson, qui est une chanson qui s'appelle Place des grands hommes de Patrick Bruel. Et en fait, là, je vous spoil des trucs que je n'ai pas dit. Hein. le point de départ de cette histoire, c'est ces six copains qui viennent d'avoir les résultats du bac et ils sont tous les six diplômés. Et ils font une soirée, ils entendent cette chanson de Patrick Bruel, Place des grands hommes. Ils font une promesse qui est celle de se revoir obligatoirement tous les 5 ans. Et donc, je vais raconter ça. Est-ce qu'ils vont réussir à se revoir et comment ils vont changer, comment ils vont évoluer et comment leur amitié va être mise à l'épreuve de tout ça. Donc voilà, c'est ce que je suis en train d'écrire. Et là, vous êtes les seuls à savoir.
C'est une exclusivité.
Exactement.
Merci, c'est très beau et on a très hâte de le lire. Ah bah. Par contre, voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions dans la joie, dans le bon humeur.
Mais, tout à fait, toujours.
Maintenant, donc, on va prendre un petit temps pour voir si dans le public, il y a des questions. Oui.
Public donc, on va présent en nombre, il faut le signaler.
On va faire passer un petit micro.
Tu parlais tout à l'heure de ton rapport au fait que l'art, ça te détend, que ça n'a pas besoin d'être parfait. J'imagine que pour écrire un roman, c'est complètement différent et pourtant, ça reste une forme d'art. C'est quoi ton rapport à cette forme d'art alors et comment est-ce que tu fais pour concilier écriture et perfection ?
J'essaye de pas concilier écriture et perfection parce qu'en fait, il n'y a jamais de perfection pour le coup. Et on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on écrit parce qu'on trouve toujours que les autres écrivent mieux que soi-même. Donc j'essaye au contraire de ne pas penser à ça, de ne pas me dire, quand je lis d'autres auteurs, je me dis oh là là, mais moi j'aimerais tellement écrire comme ça. Donc je me contente d'écrire à la Karen Ponte en fait. Et au final, bah, voilà, cette écriture-là, elle séduit quand même des tas de gens. Donc pour le coup, je crois qu'il faut vraiment essayer d'oublier cette notion de perfection si on veut réussir à aller au bout. Parce que je crois pas que ce soit jamais parfait au final un roman. Je pourrais le réécrire éternellement et changer des tas de trucs. En revanche, ça me détend moins, c'est sûr que... parce que c'est beaucoup de doutes, hein, l'écriture. C'est beaucoup de remise en question, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va plaire aux gens. Donc c'est vrai que ça, c'est pas simple. Et quand j'ai un roman qui sort, je suis en apnée pendant les trois premières semaines, quoi, parce qu'on ne sait jamais comment il va être reçu. Et plus j'écris, plus j'ai de lecteurs et plus il y a de gens à décevoir. Et donc, c'est compliqué, parce que j'ai évidemment pas du tout envie de décevoir mes lecteurs. Donc ça, c'est vraiment les angoisses avec lesquelles il faut faire. Et un jour, Grégoire Delacour m'a dit, qui est un romancier français, il m'a dit « chaque roman est un premier roman ». Et en fait, il a tellement raison. Ça veut dire que moi, je pensais qu'après le premier, bah, j'aurais plus peur de rien. Et en réalité, plus ça va, plus j'ai peur. Et le seul doute que je n'ai plus, c'est de savoir que je peux écrire un roman. Ça, aujourd'hui, je sais que je peux écrire un roman. Mais en dehors de ça, tout le reste est encore vachement là. Et du coup, l'art-thérapie à côté, c'est vachement bien. Puis en plus, je suis totalement nulle. Donc, j'ai zéro ego. Et donc, le moindre truc que je fais, je m'auto-satisfais des fois des trucs très moches. Et en fait, cette balance-là, en fait, d'absence de réflexion, d'absence d'enjeu, elle est vachement bien. Donc, mais c'est effectivement l'écriture de l'autre côté, voilà, est plus. Puis en plus, il faut une disponibilité mentale et tout ça. Mais bon.
Merci. Il y avait une question juste derrière.
Moi, j'avais une question sur le livre sur scène. Est-ce qu'avant d'écrire ce livre, tu voulais absolument écrire un livre qui se passe à New York ?
Oui. Oui, c'était. En fait, j'ai réalisé que j'aime cette ville infiniment et que je n'avais jamais utilisé New York pour mes romans, si ce n'est dans un roman où l'héroïne fait un petit saut. Et donc, New York est sur deux pages. Et je m'étais dit, c'est fou quand même, tu adores cette ville et jamais tu t'es dit que tu pouvais l'utiliser. Donc là, vraiment, dans le cahier des charges de départ, j'avais « je veux de l'amitié, je veux du New York et j'ai envie d'une urgence de vie qui oblige à réaliser un rêve ». Et donc, à partir de là, j'ai tricoté, j'ai cherché l'urgence de vie. J'ai cherché pourquoi elle pouvait aller à New York. Mais c'était vraiment volontaire. Et d'ailleurs, la moitié du roman se passe à New York. Donc j'avais très envie de ça, de partager cet amour que j'ai pour cette ville.
Oui, il y a une autre question.
Et du coup, dans la suite, est-ce qu'il y a une autre ville qui t'inspire ou un pays qui t'inspire pour écrire un roman ?
Alors... J'aimerais beaucoup, dans les prochains voyages, j'aimerais beaucoup faire les grands parcs de l'ouest des États-Unis, parce que je trouve que les paysages ont l'air juste sublimes. Mais avant ça, j'ai promis à mes enfants qu'on irait au Japon en 2026. Ce n'était pas du tout un pays qui m'attirait de base, mais j'ai plusieurs copines qui y sont allées et qui m'ont dit que cette sérénité qu'il y avait au Japon, à nul autre pareil, était quand même assez bouleversante. Et puis, c'est quand même le pays des stickers et des carnets et de la papeterie et tout ça. Donc, je vois aussi des gens qui reviennent et qui ont acheté des tas de babioles. Donc, j'ai dit à mes enfants, allez, OK, on va aller au Japon. Donc ça c'est le prochain grand voyage, il est là.
Tu trouveras sûrement des Funko Pop.
Ah ben, j'espère bien. J'espère bien. Alors après, je pense que c'est une culture complètement différente et je suis moins dans cette culture-là. Mais mon fils, depuis tellement longtemps, rêve d'aller au Japon que quand je lui ai dit, il était... voilà, il était tout. C'est vrai, on va vraiment y aller. Allez, on va tenter d'aller au Japon.
Est-ce qu'il y a par hasard d'autres questions?
Oui. On associe souvent le feel good à de la littérature féminine. Et on a du mal à savoir, du côté de la réception, comment ça se passe. On imagine un lectorat très féminin, mais toi qui vas sur les salons et qui rencontres justement ton lectorat, est-ce que tu as des lecteurs? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton lectorat?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le lectorat, tout genre confondu, est féminin. Puisque 8 lecteurs sur 10 sont des femmes, de base. Tout genre confondu. Hein. Donc, ça veut dire que de toute façon, des lecteurs masculins, il n'y en a déjà pas beaucoup. C'est sûr que ceux qui lisent, ce n'est pas nécessairement vers mes romans qu'ils vont, mais j'ai quand même des lecteurs masculins. Et c'est toujours très chouette les échanges que je peux avoir avec eux, parce qu'eux sont surpris d'être souvent seuls, en fait, parce que quand ils aiment lire, ils aiment tout lire. Et donc, ils sont souvent très étonnés de se dire « Mais pourquoi je devrais lire que du polar, alors que je suis un garçon ?» Et j'ai des fois, j'ai souvenir d'une anecdote, hein, j'étais à Limoges, c'était mon premier salon à Limoges, et arrive devant moi une grosse baraque, un gars barbu, roux, rugbyman et tout, et qui me dit « Mais j'adore vos livres, j'arrête pas de dire à ma femme de les lire. » Et ça m'a fait tout drôle parce que c'était tellement pas l'image que j'avais de mes lecteurs. Et il m'a dit « Mais oui, mais moi j'adore vos livres et tout, ça me fait pleurer. » Et donc c'est très chouette, franchement c'est très chouette. J'ai des couples qui me lisent chacun leur tour. Franchement, c'est un vrai lectorat hyper bienveillant, hyper touchant. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui viennent me voir. Ça les, voilà, les, parce que, en fait, ce n'est pas moi, hein, évidemment, qui les fait pleurer. Mais les romans que j'écris, évidemment, font souvent écho à des moments compliqués de leur vie. Et ça leur a, des fois, ça leur fait pas mal de bien. J'ai une lectrice un jour qui m'a dit, à la fin d'une dédicace en librairie, elle arrive devant moi et elle fond en larmes. Et elle me dit... c'est une comédie de Noël, et elle me dit « Le soir où j'ai lu votre comédie de Noël, ça m'empêchait de sauter par la fenêtre. » Et là, en fait, on ne s'attend pas à ça. Et cette jeune fille, elle souffrait d'endométriose de manière extrêmement sévère, elle n'en pouvait plus de ses douleurs. Et le soir, elle a ouvert cette comédie, en fait, pendant juste 2 heures. Elle a oublié, quoi. Et en fait, ça n'a pas d'autre prétention que ça, moi, ce que j'écris. C'est de me dire que bah, si pendant 2 heures, ça a fait du bien, cette jeune fille-là, et ça lui a... apporter une bulle comme ça de bah, je suis ultra fière quoi. Donc, et ça vaut toutes les critiques du monde sur le feel good et la littérature de nana et tous ces trucs là parce qu'en réalité il y a plein de gens à qui ça fait du bien et j'ai énormément de gens qui viennent me voir en salon c'est aussi pour ça que j'ai peur de décevoir hein, c'est que tout cet amour là que je reçois j'ai pas envie un que ça s'arrête. Et deux, qu'un jour, j'écrive le livre qui ne plaise pas. Quoi. Donc, ça me rajoute cet enjeu.
Si je peux, j'ai une deuxième question qui est un peu en lien avec la première. C'est aussi sur les lecteurs. Sur scène, tu fais des notes de bas de page qui sont des sortes de commentaires ou de petites blagues, ou des commentaires ironiques sur ce que tu viens d'écrire. On dirait une conversation avec tes lecteurs.
Oui, c'en est une.
Et je me demandais si c'était inspiré de ta pratique des réseaux. Est-ce que tu le faisais sur tes premiers livres?
Alors, il y en a dans tous mes livres. Les notes de bas de page, c'est un peu ma petite marque à moi de fabrique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, voire pas du tout.
Oui, c'est très surprenant.
Oui, parce qu'en fait, d'habitude, les notes de bas de page, c'est des trucs chiants. C'est des explications de textes qu'on ne lit jamais, hein, parce que voilà, personne ne s'en fout. Moi, j'ai déjà vu des notes de bas de page qui sont plus longues que le petit texte qui est... et on n'a juste pas envie de lire ça, quoi. Et en fait, j'étais persuadée, quand j'ai commencé à écrire, que les notes de bas de page, c'était ça. Et je travaille mon premier roman avec mon éditrice, et je fais une digression de ce genre, mais dans le texte. Et elle me dit, ça serait plus drôle de le mettre en notes de bas de page. Et donc, moi, je la regarde, et je lui dis, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que vraiment, elle me répond, mais tu as tous les droits, c'est ton livre. Et là, je pense qu'elle a regretté. sa phrase, parce que je me suis dit, ah ouais, elle a ouvert une porte. Et depuis, je fais que ça, parce que évidemment que c'est un moyen pour moi de renouer avec l'univers du blog, en fait, et avec cette instantanéité que je pouvais avoir d'échange avec les gens. Et donc, ces notes de bas de page, elles ne sont que drôles. Ça n'est jamais autre chose que ça. Donc, il y en a plus ou moins selon les livres. Il n'y en a pas beaucoup dans Sur scène, parce que le livre s'y prête moins. Dans les comédies de Noël, il y en a plein, parce que je pourrais en mettre une à chaque page. Et je sais que les lectrices me disent, mais j'attends à chaque fois avec plaisir cette petite note, parce qu'elles savent que c'est de l'autodérision, de la private joke, des commentaires que je leur fais. Et j'adore les écrire, je me fais mourir de rire. Et au début, mon éditeur, il m'en enlevait 3-4, et maintenant, il a compris qu'il fallait qu'il lâche l'affaire, donc il les laisse toutes. Franchement, j'adore les écrire, je trouve ça... c'est moderne déjà, et c'est vrai que c'est un vrai moyen de garder un lien quoi, avec les lecteurs.
Merci.
On arrive du coup à la fin de cette émission. Merci encore pour avoir accepté d'être ici et pour avoir...
Merci à vous.
Pour avoir répondu à nos questions.
On espère de te voir à nouveau soit dans un prochain podcast, soit dans un salon, soit en librairie pour ton prochain livre. Et voilà, donc à la prochaine et merci encore.
Merci.